Champion des ondes, votre rendez-vous sportif mensuel sur Radio Campus Orléans. Une heure d'actualité, d'interview et de jeu sur le 88.3 FM, en radio numérique terrestre et sur orléans.radiocampus.org. Champion des ondes.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. On a eu un petit souci évidemment au démarrage, c'est le retour de Champion des ondes. Et ce soir, une magnifique émission avec nos mêmes invités, nos compatriotes, nos collègues. Pierre, comment ça va ce soir ?
Bonsoir Malo, bonsoir Guillaume, ça va tellement bien, je suis tellement content de revenir après quasiment un mois et demi. C'est la première de 2026, on a le retour du générique en plus pour le début d'année. Que demander de plus ? On est content, il y a plein de choses à raconter sur le sport orléanais puisqu'on a raté plein de choses. Donc trop content, comme d'habitude d'être ici.
C'est plein de choses. Et Guillaume, salut, comment ça va ?
Salut Malo, salut Pierre, bah écoute, ça va très très bien, je suis très content de revenir. C'est vrai que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait une émission. Comme le dit Pierre, il y a beaucoup de choses à dire sur les différents clubs, donc j'ai très hâte qu'on commence ça.
Bah d'ailleurs, on va commencer tout de suite, je pense. Okay. L'émission qui dure une heure, évidemment, sur Radio Campus Orléans, Champion des ondes, votre émission sport orléanaise. Qui commence aujourd'hui, Guillaume ? On te laisse l'honneur pour faire un petit récap de ce qui s'est passé avec cette nouvelle année, évidemment, 2026. Il me semble qu'il y a eu quand même de gros matchs.
Ouais, ça a commencé très très fort. Je ne sais pas par quelle équipe vous voulez commencer.
Oh, comme tu veux.
Par l'équipe qui est la plus en forme, c'est-à-dire pas grand
pas beaucoup. Et c'est Champion des ondes.
On va commencer par l'OLB.
L'OLB. Pour une équipe très en forme, ça fait un peu mal de commencer
désolé,
avec l'OLB.
Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont très très en forme en ce moment. On va commencer par l'OLB qui a connu une période compliquée il y a quelques temps. Ils ont subi une grosse défaite. C'était à Comet contre Blois dans le derby, dans le Centrico. De 15 points ou plus, donc c'était une défaite qui a fait très très mal au moral, après quoi le club a décidé de se séparer notamment de son meneur américain Xavier Johnson
qui n'a jamais réellement su s'intégrer à l'équipe.
Ouais, il a commencé la saison en étant blessé et c'est vrai que pour un poste aussi important que celui de meneur, il a eu un impact vraiment pas très important.
Bah surtout qu'il faut préciser qu'on a le droit qu'à un seul joker états-unien.
Ouais, les joueurs américains sont considérés comme les joueurs les plus importants, surtout à ce poste de meneur. On sait qu'une équipe qui a un bon meneur, déjà, c'est une équipe qui offensivement est en place. Et donc là, c'était un joueur qui était en difficulté. Mais c'est vrai que c'est une adaptation à avoir, etc. Mais bon, on ne le souhaite quand même que du bon. Depuis, le club a recruté Marek Klassen, un Canadien, qui a participé, il me semble, aux Jeux Olympiques.
Il a fait les Jeux Olympiques de 3-3, ouais.
Ouais, de 3-3, et pour l'instant, qui a fait 3 matchs, il me semble. Il a commencé contre Blois, où ça a été un peu compliqué, mais c'était le cas pour toute l'équipe, et depuis, ça a l'air d'aller mieux. Ensuite, l'OLB a perdu une nouvelle fois, c'était encore à Comet, contre Quimper, dans un match...
Une défaite terrible.
Ouh la clim terrible contre Quimper.
Dans un match très, très offensif, puisque ça a fait au final 91-92 pour Quimper, sur un tir à 3 points au buzzer. Donc Quimper qui est venu mettre une belle clim à Comet.
Ouais, le clip a fait quand même le tour de France. Hein. Ça a été relayé par le compte Insta de la belle clique élite. Je veux dire,
faut faire parler de nous quand on peut, quoi.
Comet qui avait 6-7 000 personnes pour supporter son équipe qui recevait l'avant-dernier du classement.
Ouais, Quimper qui était promu, 6 victoires jusque-là. Donc on leur donnait pas beaucoup de chance à Comet, mais bon. Finalement, ils ont réussi à venir s'imposer ici.
Surtout quand encaisser 92 points contre une équipe, tu l'as rappelé, qui est promue, et surtout quand ton objectif, avant tout pour gagner des matchs, c'est bien défendre.
Oui, surtout que c'est vraiment l'ambition de l'OLB d'avoir une défense très agressive, très efficace pour ensuite faire mal en attaque. Donc, ouais,
Lamine Kébé, d'ailleurs, disait en conférence de presse que son objectif en début de saison, c'était d'encaisser 70 à 75 points par match.
Ouais, quand tu prends 70 points, souvent c'est que tu gagnes parce que derrière. De toute façon,
la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est pas ça que tu veux dire ?
Non, la meilleure attaque, c'est la défense.
Ou la contre-attaque.
Si tu défends bien, t'attaques bien normalement.
Allez, voilà, un truc comme ça.
Donc, c'était un peu compliqué récemment et depuis, ça va mieux. L'OLB s'est imposé en Leaders Cup de 13 points contre Blois, donc sur le match aller. On rappelle, c'est le demi-finale aller-retour. Donc, le match aller était à Comet et donc l'OLB va avoir 13 points à défendre au jeu de paume à Blois. Dans un match qui sera encore une fois très très tendu parce que le niveau est très proche, c'est encore une fois un derby. On sait que Blois était venu avec une équipe un petit peu décimée, des blessés, etc. Donc il va falloir défendre les 13 points.
Ouais, et puis quand même à noter que cette Leaders Cup, cette compétition, c'est pas non plus la priorité ni pour l'une ni pour l'autre des deux équipes. Donc en fait, elle a fait du bien au moral cette victoire, mais elle est pas non plus ultra importante.
Faut se redonner de la confiance.
Ouais, c'est ça. C'est plus pour la confiance que pour autre chose. Et puis surtout, ça change rien au classement du championnat.
Non, c'est juste que l'OLB est tenant du titre, donc ils ont un rang à tenir. Ils ont l'ambition de garder leur titre. Mais
c'est pas ça qui les a fait monter l'année dernière en fait.
Ah non, non, non.
C'est peut-être.
C'était un trophée à avoir, ils en avaient plus eu depuis quand même un tas de temps. Donc c'était très bien de l'avoir gagné. Mais on sait que c'est aussi le problème pour Blois qui ambitionne aussi de monter et qui a la Leaders Cup plus la Coupe de France aussi à jouer à côté évidemment du championnat. Donc il va y avoir des forces qui risquent de tomber. Ça pourrait profiter notamment à Roanne qui est
la
première.
Surprise.
Ouais, bah la surprise, on n'en entendait plus trop parler, on était vraiment focalisé sur l'OLB et sur Blois, qui se tirait la bourre sur la première et deuxième place de Pro B. Et finalement, c'est Roanne qui est invaincu depuis 5 matchs en Elite 2 et qui est donc première indiscutable dans ce championnat. Donc, ça va être une équipe à prendre au sérieux, mais une équipe qui, elle aussi, est en demi-finale de Leaders Cup.
Ça fait drôle quand même, hein, parce qu'on l'avait annoncé sur cette antenne même au début de saison en septembre, qu'on s'attendait à un duel véritable centre 100% centre avec Blois et donc Orléans.
Le fameux Centrico.
Exactement. Et puis au final, on se retrouve un peu
avec Roanne et
avec
d'autres équipes
au-dessus.
Même
ouais, on le disait
dans
tout
la bataille. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que l'OLB et Blois sont deux équipes qui sont au-dessus normalement avec un effectif qui est quand même mieux garni. Mais c'est deux équipes qui n'y arrivent pas. Alors est-ce que ça va continuer? Je ne pense pas que ça soit l'OLB ou que ça soit Blois. En tout cas, il faut croiser les doigts pour nos Orléanais. Mais Roanne est en embuscade et Roanne le fait savoir.
Ouais, et puis à noter aussi que tu le disais, derrière, il y a quand même 4, 5, 6, les 4e, 5e et 6e places. Donc Chalon, Denain et Vichy qui ont seulement une victoire de retard sur l'OLB, qui ont donc 13 victoires, les 3 équipes. Ça se tient à pas grand chose en fait. Hein. Et puis on peut quand même le rappeler, l'objectif c'est de finir premier pour monter tout de suite parce qu'en fait, on l'a vu l'année dernière, l'OLB n'a pas.
C'est quasiment impossible d'aller gagner.
On se souvient l'année dernière ce qui s'était passé. Hein, et puis.
Voilà, je crois que c'est. Gravelines Dunkerque, il me semble, qui est avant-dernier de Click Elite, donc qui redescendrait disputer les playoffs d'Elite 2.
Et puis quand on se souvient que le Portel, l'année dernière, qui était venu. C'est Saint-Quentin. Quand on voit le niveau et la classe d'écart qu'il y avait entre le Portel et l'OLB l'année dernière, le Portel qui redescendait pour jouer les playoffs, aujourd'hui, le Portel, c'est une victoire en élite, c'est des matchs, des défaites à plus de 60 points.
Voilà, ils ont viré l'entraîneur, écarté quelques joueurs aussi.
Après une seule victoire en 18 matchs, ça fait peu quand même.
Ouais, et puis surtout une victoire.
Pour une équipe qui met 25 points à
Et puis surtout, il faut voir les scores aussi. C'est surtout ça en fait.
C'est marquant, là, le Portel recevait Paris, qui est dans le haut classement d'élite évidemment, mais ça finit en 57-120 à domicile. Ouais. Le Portel qui perd de 63 points contre Paris, et c'est une équipe qui met 25 points à domicile à Orléans l'année dernière.
À l'extérieur, oui, qui se déplace.
C'est ça, il se déplace au Comet, donc un Comet qui avait fait évidemment guichet fermé, et puis clim énorme, 25 points de retard, alors que c'est une équipe aujourd'hui qu'en prend facile 40 d'écart.
Après, si on peut tempérer, on peut aussi voir le classement de Boulazac. Boulazac qui avait fini premier, que l'OLB avait battu en finale justement de cette Leaders Cup. Boulazac qui est 12e en élite, avec 6 victoires, autant que Limoges. Donc il y a aussi des motifs d'espoir, même si c'est vrai que cette phase de play-off, on a l'impression que c'est une ligue qui devient un petit peu fermée. Quoi.
Ouais, il faut vraiment éviter de passer par la case play-off. Quoi. Si tu peux finir premier, c'est vraiment bon à prendre, parce que là, ce serait Saint-Quentin. Aller jouer à Saint-Quentin, c'est pas facile, parce que je crois que c'est l'un des plus gros publics de France. Ce serait pas un cadeau. Mais c'est vrai que ça va être très compliqué, hein, parce que ouais, quand Roanne, Blois, plus derrière les matchs pièges, on sait que l'OLB avait perdu de près de 20 points, il me semble, à Denain. Ouais, c'est une Pro B qui est très, 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 très homogène cette année, très, très dense.
Ouais, et puis comme tous les ans, en fait, hein, c'est un championnat qui est ultra compliqué. On le sait, tous les matchs comptent. Et puis là, Orléans a laissé passer des points précieux. Et il va falloir vite se relever parce que même si la saison est longue, elle peut être longue dans les deux sens.
Et puis surtout, c'est des points lâchés à domicile. Et c'est ça qui est quand même assez dingue. C'est-à-dire que l'OLB a la chance d'avoir la meilleure affluence de France, tout basket confondu. L'OLB a un public qui répond présent, fait des journées spécifiques quand on reçoit Blois, et tout ça pour lâcher au début du troisième carton. Il y a France Télévisions qui en a eu la chance de voir ses matchs sur France Télévisions, France 3 Région, et l'OLB qui répond absolument pas présent et qui sort pas de sa mi-temps. Et c'est ça qui est un petit peu dommageable, c'est se dire il y a de l'attente autour de cette équipe. C'est peut-être la seule à Orléans qui a autant d'attentes, en tout cas. On reparlera de l'USO tout à l'heure, mais
ça va pas beaucoup
l'USO et Septors, est-ce qu'il y a plus d'attentes? Je pense pas. Non. C'est vraiment l'OLB qui mène ce sport orléanais. Ça se démène pour montrer les matchs et pour créer un petit peu d'atmosphère. Et au final, l'équipe, sur les 8 derniers matchs, c'est quoi, 6 défaites
pour l'OLB?
Si on compte, bah là, si ils on compte sont pas sur... la Leaders Cup.
Bah là, ils ont gagné 61-83 à Évreux, mais depuis...
Oui, voilà, c'est ça.
Ouais, ils avaient perdu à Aix-Maurienne, pareil, ils avaient perdu... Ils avaient pris 84 points, 84-68. Donc ça fait un sacré score. À Denain, ils perdent 25 points. Ils perdent à hier Toulon. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi le calendrier qui est un peu compliqué. Hein. Ils jouent parfois deux fois la semaine. Quand tu te déplaces à Toulon, c'est compliqué. Mais c'est vrai que l'OLB a presque obligation de monter. Quand on voit les installations, le budget, etc. S'il y a des attentes qui sont placées en l'OLB depuis plusieurs saisons... Et malheureusement, ça fait plusieurs saisons aussi qu'on connaît des déceptions. On l'a vu l'année dernière, ça s'est fini assez brutalement face au Portel. On ne s'attendait pas forcément à ce que ça se termine en prenant 25 points d'écart à Comète contre le Portel. Donc là, il va y avoir une fin de saison à gérer pour essayer de finir premier et essayer de construire après en cas de montée.
Oui, parce qu'il y a aussi ça. Hein, il y a aussi ça. L'objectif, c'est quand même de se maintenir dans le cas où... l'OLB monte, ce qui me semble être la place d'Orléans aujourd'hui dans le basket français. C'est devenu une place forte du basket français. Donc à mon avis, la place d'Orléans est en élite, mais il va falloir s'y maintenir parce que quand on voit les budgets de Monaco, quand on voit ceux de Paris, alors même si c'est encore un peu différent, il y a la NBA européenne qui va arriver, ça reste quand même l'élite, une première division de basket qui est extrêmement compétitive.
Et ça va peut-être laisser des places aussi, là.
C'est la NBA européenne,
clair. Bon, après, elle est pas encore là, mais ça va peut-être permettre, je sais pas, une année avec 2-3 clubs d'élite 2 à monter, quoi.
Ce qui ferait les affaires de nos Orléanais, c'est clair.
Ouais, on passe à l'USO.
Oh là là, quelle équipe.
Qui avait commencé le mois de janvier avec une défaite, c'était en Coupe de France contre Monaco, qui est l'USO qui recevait Monaco au Stade de la Source en Coupe de France, défaite 3-1.
Est-ce qu'on parle un petit peu de ce match?
Oui, évidemment.
Si on fait un récap, c'est l'USO du coup qui a battu deux clubs de National 2 avant de venir. Un à l'extérieur et un à domicile.
Bayonne,
c'était ouais. À l'extérieur et à domicile, c'était.
C'était pas USO Bayonne justement, ils recevaient Bayonne.
Ouais, je crois que c'était USO à domicile.
Il me semble qu'ils recevaient
Bayonne à domicile.
Bayonne,
ouais. Ce serait bien.
Mais oui, en tout cas, ils avaient éliminé deux équipes d'un niveau inférieur et là ils s'affrontent.
Non, c'était Dieppe à l'USO et déplacement à Bayonne.
Et déplacement à Bayonne, ouais. En effet, il est bon.
Non,
c'était Bayonne à domicile aussi.
Ils ont tout reçu.
Bayonne, c'était à domicile.
Bayonne pour le 7ème tour.
Ouais,
le tour avant Dieppe, c'était à l'extérieur, c'est sûr et certain.
Non.
C'était Bayonne à. Non, par contre, ils étaient allés.
Ils étaient à Saint-Jean.
Ils étaient allés contre une régionale 1.
Il est très très bon parce qu'ils avaient été à Saint-Jean et ils avaient gagné 2-1.
Ouais, c'était un match gourbier.
Et ils ont marqué deux buts à partir de la 80ème.
C'était un match gourbier. Et donc là, ils recevaient l'ogre monégasque.
Et donc, il recevait une équipe de Ligue 1, tout le monde était très heureux. C'était un super match. Stade de la Source complètement plein. Je n'ai jamais vu, sincèrement, hein, je pense que ça fait des années et des années que je regarde le football, je n'ai jamais vu une équipe de National aussi bien jouer contre un club de Ligue 1. Qui plus est, s'est qualifié là, en Ligue des Champions en allant faire 0-0 contre la Juventus. Désolé, ami marseillais, mais je repense encore à cette tête de Troubine.
Non.
Et donc, le Monaco a réussi à faire ce que Marseille n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire jouer au football sur le dernier match de Ligue des Champions. Et donc, sincèrement, avoir une équipe de National avec plus de 60% de possession de balle, 14 tirs dont 7 cadrés, enfin, je trouve ça complètement dingue. Certes, l'AS Monaco s'est retrouvé à 10 une bonne partie du match. Toute la deuxième mi-temps, d'ailleurs, 42e, je crois que c'était. L'US Orléans a très bien joué au football. L'US Orléans a essayé de marquer et s'est pris un but assez dommage, mais bon, c'est aussi la défense orléanaise qui est pas terrible, ça reste une défense de National. Et donc à courir derrière ce score à 11 contre 10, et donc évidemment ça a créé des espaces, et donc deux buts à la 88e et 90e par le buteur Ilinikina qui est parti en Arabie Saoudite aujourd'hui d'ailleurs. Ouais.
Trentaine de millions.
Et voilà.
Traumatisé par l'USO sûrement.
Il a marqué doublé, donc pas sûr.
Non, pas du tout.
mais l'USO au moins qui a réussi à marquer, Fayed El Koumisti qui a marqué un but en fin de match. Mais sincèrement, c'était un match super plaisant. Bon, il faisait assez froid. Mais voir une équipe de l'USO jouer aussi bien au football, on se demande ce qu'elle fait en national. Alors évidemment, le foot.
Je vais te le dire ce qu'elle fait en national.
On va en parler.
Pas grand chose.
L'USO, enfin, le foot, ça se joue pas uniquement sur un match, mais se dire que cette équipe a ce potentiel-là, franchement, c'était inespéré. Et donc, évidemment, après ce match, tout d'enthousiasme, tout le monde s'est dit 2026 va être la plus belle année de l'US Orléans.
Et puis,
donc, deux défaites. Une à Fleury-Mérogis.
Et une défaite assez... Enfin, la défaite à Fleury, elle est nette et sans bavure, quoi.
Et surtout, celle qui a... Là aussi, on a fait le tour des réseaux sociaux avec nos clubs orléanais contre Sochaux. Défaite marquée notamment par
l'expulsion
après 13 minutes de jeu du gardien Charlie Jean, qui depuis a quitté le club.
A quitté le club, a désactivé ses réseaux sociaux. C'est sincèrement terrible ce qui se passe pour Charlie Jean.
Et donc le gardien qui, après un dégagement un peu hasardeux.
C'est une reprise. C'est que pour les gens et l'image, c'est une reprise de volée. C'est, dites-vous, un ballon qui arrive de 60 mètres dégagé un peu... maladroitement par une équipe de Sochaux, et il s'est dit je vais faire une reprise de volée. Il était à 25 mètres de ses buts, la balle avait fait 60 mètres en l'air, et il s'est dit c'est mon moment.
Donc il s'est fait contrer par un joueur de Sochaux.
Il a loupé en fait.
Il s'est retrouvé à la course face à un attaquant de Sochaux, et donc dans la surface de réparation pour éviter que le joueur de Sochaux marque dans le but vide. Il a décidé de tacler par derrière l'attaquant de Sochaux, donc ça fait pénalty.
Il a pas marqué.
Enfin oui, mais bon.
Ah, il
y a eu pénalty et derrière, oui, il a pris un carton rouge et un pénalty pour Sochaux, arrêté donc par
Grégory Berthier. Et Grégory Berthier,
joueur de champ,
attaquant de l'US Orléans. Il faut savoir que, et on en a pas trop parlé cette année, il y a une nouvelle règle en national et qui dit que on peut faire 5 changements comme en Ligue 1, sauf que la différence c'est que les clubs de Ligue 1, ils ont le droit à avoir 8 joueurs sur le banc. En national, c'est pas le cas, on accepte uniquement 5 joueurs. La Ligue 3 qui va arriver, et on fera peut-être un petit dossier dans les semaines qui arrivent, va changer cette règle-là. Mais en national, on peut avoir que 5 joueurs sur le banc. Mais c'est vrai que, et pour prendre la défense de Hervé Delamagueur, qui est le coach de l'US Orléans, c'est quand même assez rare qu'un gardien se blesse ou se fasse expulser. Malheureusement, c'est arrivé début janvier, l'USO fait ça depuis le début de la saison. C'est arrivé avec Charlie Jean, et qui évidemment a subi la double peine après s'être déjà troué en début de saison, malheureusement contre Sochaux, mais contre d'autres clubs. Donc, arrêt de Grégory Berthier, un stade en feu, et franchement c'était un début de match parfait en plus. Enfin parfait, vous m'avez compris.
Mais c'est rare de voir ça, et donc il a quitté le club.
Et donc, peut-être parler de la fin du match.
Je te laisse en parler, défaite
2-1, évidemment, deux buts assez maladroitement. Mais j'ai une petite question pour vous. Attention, c'est la question à 1 million d'euros. Quand en face, vous avez un gardien, enfin, c'est pas son poste, c'est-à-dire qu'il est attaquant, voire même buteur, l'équipe en face, vous dites, tiens, en seconde période, combien de fois je vais tirer au but? Je vous laisse deviner le nombre de fois que Sochaux a tiré au but après que Grégory Berthier soit devenu attaquant, c'est-à-dire qu'il y a eu la causerie pendant la mi-temps, l'entraîneur de Sochaux a appuyé sur le fait qu'il fallait tirer, évidemment, quand c'est pas un gardien en face, on peut tirer à 25 mètres, c'est pas son métier. Je vous laisse deviner combien de tirs a fait Sochaux en deuxième période contre l'US Orléans. Pas de tir cadré, de tir tout court, c'est-à-dire sortir le ballon du pied.
Pour garder foi en l'humanité, je dirais qu'ils ont tapé au moins une vingtaine de fois rien qu'en mi-temps, en deuxième mi-temps quand même.
Guillaume ?
Je vais prendre le contre-pied, je vais dire 5 fois maximum. Allez, 6 fois.
Sochaux a tiré 0 fois au but de l'US Orléans, c'est-à-dire qu'on a vu une deuxième période, mais je crois que j'ai halluciné sur le bord du terrain, parce que du coup, j'ai fait une vidéo qui est retrouvée bien évidemment sur les réseaux, mais je me suis mis du côté de Sochaux, enfin du côté de l'US Orléans, en me disant, Sochaux va dérouler, on va voir des buts, c'est très bien. Sochaux n'a quasiment pas touché un ballon, c'est-à-dire que Sochaux s'est fait malmener en étant à 11 contre 10, et surtout Sochaux n'a pas tiré une fois au but, et ça c'est quand même assez dingue.
Et Sochaux a gagné 2-1.
Et Sochaux a gagné 2-1 en tremblant avec un but d'El Koumisti à la 85e. Donc Sochaux a tremblé les 5 dernières minutes, mais franchement, se dire de jouer sans gardien et pouvoir gagner un match de national contre une équipe qui est 3ème de national, c'est-à-dire que Sochaux c'est pas les péquenauds d'en face, et Sochaux a tiré 0 fois au but, et ça c'est quand même assez dingue.
D'ailleurs, on a parlé de Charlie Jean qui est parti. Ouais. Il y avait des rumeurs aussi sur El Koumisti.
Fahed El Koumisti. Alors, Charlie Jean, c'était. Prévu. C'était avant l'incident de Solchaux. En conférence de presse, Hervé Delamagueur a dit qu'il allait avoir une discussion avec lui sans préciser. Bah, je pense qu'on
le
a
match contre Sochaux,
Après le match de Sochaux, c'est ça, il a dit je vais en discuter avec lui. Bon, bah, apparemment, ils ont bien discuté, à tel point que Charlie Jean est parti. Je pense qu'il partira en National 2, là où il était avant de faire ses 2-3 saisons exceptionnelles, parce qu'il faut dire que c'était quand même le meilleur gardien de National l'année dernière.
Ah ouais.
Et Fahed El Koumisti, qui pouvait potentiellement partir au CSKA Sofia, donc qui joue l'Europe quand même. C'était une info de La République du Centre.
Ouais, j'avais vu passer qu'il y avait des rumeurs.
Apparemment, il était en train de discuter. Et finalement, en conférence de presse, après le match contre Valenciennes, quel Guillaume va nous parler juste après, son entraîneur, Hervé Delamagueur, a dit que Fahed El Koumisti devait bien rester et que ça montrait les ambitions de l'US Orléans. Et à noter aussi que Charlie Jean ne sera pas remplacé, c'est Pham qui prend sa place.
Le club ne jouera sans gardien désormais.
Pham et... qui était gardien en Coupe de France et qui a sorti des pénaltys et qui a été plutôt présent contre Monaco, sans forcément dire bon et très bon. Il a été là contre Monaco, donc on verra bien. Il a été là contre Valenciennes.
Il était là, sans plus. Il est présent.
Voilà.
Il était là. Mais voilà, au moins on laisse la chance à un jeune gardien.
Et il a fait un clean sheet contre Valenciennes, du coup.
Il a fait un clean sheet contre Valenciennes, mais c'était pas rassurant non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est un gardien un peu atypique qui nous fait des arrêts un peu bizarres.
Il est capable du meilleur, de sortir des grosses frappes, et il est capable de se...
Il est capable surtout de sortir un peu maladroitement sur des centres aériens, et on se dit, mais c'est absolument pas académique, mais les balles finissent dans ses gants. Donc
finalement,
faut être heureux.
L'essentiel est là, mais bon.
Mais c'est pas forcément rassurant. Et l'US Orléans, je sais pas si t'as le classement, l'US Orléans qui est pas très loin de Sochaux. Sochaux qui a vu son match, sa victoire contre Valenciennes. Valenciennes, justement, on en parlait avec l'USO. Il y avait eu des incidents, donc on n'a pas tout de suite donné les résultats de Sochaux. Et donc là, les résultats sont tombés. Et donc, évidemment, Sochaux a gagné sur tapis vert. Et donc, ça fait, en gros, Rouen premier avec 37 points, Dijon deuxième avec 35, Sochaux troisième avec 34 points, et l'US Orléans 6e, mais avec 29 points. Donc l'US Orléans est à 6 points de potentiellement jouer un match de barrage pour monter en Ligue 2 l'année prochaine, sachant que l'US Orléans va jouer contre Châteauroux, où là c'est un derby, et il y aura Rouen, mais ça on en parlera un peu après.
Gros
donc
match,
c'est deux matchs assez importants.
Et donc l'USO est allé s'imposer pour finir vendredi soir
samedi
à Valenciennes.
Samedi soir. C'était samedi après-midi, samedi 18h.
À Valenciennes, donc, sur le plus petit des scores, 1-0.
Et c'est une victoire qui fait plaisir, parce que cette victoire n'était pas spécialement méritée, en tout cas.
Mais elle est importante, en tout cas, on la prend.
Et on tient tous à remercier, en tant qu'Orléanais, le défenseur central droit de Valenciennes, qui a permis à l'USO de marquer littéralement.
Il est chambreur, en plus. Hein.
C'est un contrôle, mais... franchement, il faudrait regarder l'image, mais c'est un contrôle complètement loupé et qui trompe son gardien. Et ça a été repris du coup par Jérémy Morel, qui est milieu, et qui donne évidemment le ballon à Fahed El Koumisti dans le but vide.
Qui marque à tous les matchs, visiblement.
Fahed El Koumisti, c'est vraiment exceptionnel. Meilleur buteur de national qui doit être à 10 buts, je pense.
10 buts, exactement.
On
passe au septembre. Peut-être.
On passe au septembre.
On passe vite sur les septembre.
On n'a pas grand chose à dire sur les septembre.
Ouais,
je pense.
Période creuse, parce qu'ils n'ont pas joué depuis décembre.
On a les transferts.
Ouais, je vais y venir. Ils reprennent le championnat donc vendredi à Créteil. Et donc, ils ont prolongé respectivement le gardien de but Nicolas Matovic, qui était blessé cette année.
Donc, qui est toujours blessé, ouais.
Qui est toujours blessé.
Toujours pas revu.
Ils ont prolongé le jeune Malo Lutumelin.
Son premier contrat
qui
pro
est énorme,
à Malo.
Qui est énorme. Depuis le début de saison, Malo, il est énorme.
Si, il est exceptionnel.
Il n'y a pas à dire, hein.
Le jeune William Sa aussi, qui signe aussi son premier contrat professionnel.
Exactement.
Et le capitaine, le co-capitaine,
l'un des capitaines,
Arthur Pecco, qui était venu l'année dernière. Et en revanche, le coup dur pour le club, c'est le départ de Lucas Petit.
À la fin de saison, ouais.
À la fin de saison, ouais, qui rejoint Limoges.
Limoges qui avait déjà
Starlet, qui avait déjà recruté le capitaine de l'année dernière.
Non, c'était pas le capitaine, c'était Anto Mohamed. Qui était ailier aussi.
C'était qui le capitaine l'année dernière?
Capitaine, c'était Clément Damiani qui est resté.
Et celui qui était parti l'année dernière, déjà en Star League, son nom m'échappe.
Il y en a plusieurs. Delecroix est parti, mais ça c'était dans un club de Pro League. Qui est parti? Tout le monde est parti.
J'ai l'impression qu'ils allaient à Limoges, j'ai recruté déjà un joueur
alors,
important de l'année dernière.
Limoges a recruté justement Mohamed, qui était aussi lié aux Sceptors et qui s'entendait bizarrement très bien avec
Lucas Petit.
Avec Lucas Petit. C'est terrible. Et il est revenu au Palais des Sports parce qu'il est venu jouer justement contre les Sceptors. Il est assez grand, il a une moustache en plus, c'est terrible. J'ai absolument pas son nom.
L'homme à la moustache.
L'homme à la
Ce
moustache.
Ce sera l'homme à la moustache.
Je vais essayer de retrouver ça
assez rapidement. Mais les Sceptors qui ont repris par un premier match amical, une première victoire, il me semble. Donc on va suivre, sachant que.
Non, tu le dis pas, tu spoiles pas ce qui se passe dans la programmation, je te vois venir. C'est pas ça que t'allais faire ? Merci, vole mon travail. Si, on peut quand même en parler un petit peu de ce qui se passe.
On peut quand même parler de Comet. C'est-à-dire que Comet va arriver.
Attends, on peut quand même parler du PSG qui vient au
Palais des Sports. Oui, mais là, je te laisse pour ta programmation, ça.
T'es bon.
Moi, je parle uniquement du fait que les Sceptors vont rejouer à Comet, bien évidemment. Et ça serait bien qu'on accueille quelqu'un. Je pense qu'on aura un joueur. Voilà.
Ouais, pour le Comet et pour Claudio Capeo. Dont Malone n'avait pas envie de chanter une chanson.
Note sur 10, Pierre.
10 sur 10. 10 sur 10.
Un air de Claudio Capeo.
Pas d'air. Pas d'air. Il n'y a pas de air dans Claudio Capeo.
Théo Clarac.
Théo Clarac, évidemment.
Il est parti à Limoges, du coup, l'année dernière aussi.
Exactement. Bah, ça fait beaucoup.
Limoges qui fait son recrutement essentiellement.
Il fait ses courses aux Sceptors. Et. De toute façon, sur les Sceptors, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Ils n'ont pas encore repris depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Par contre, le RCO.
Est-ce qu'on ne parlerait pas du RCO ?
Le RCO qui devait commencer son année civile 2026 par le choc contre Salles, donc le premier contre le deuxième.
Le RCO est en deuxième,
à 2 points seulement de Salles. Donc c'était l'occasion de reprendre la tête de la poule de National 2. Malheureusement, le match a été reporté à cause de la neige. C'était au début du mois de janvier. Donc le match se jouera au mois de mars, il me semble, à Orléans. À voir si ça aura lieu. Il me semble que ça aura lieu au Stade de la Source. Donc ils n'ont pas joué le match contre Salles. Ensuite, ils se sont déplacés à Nantes. Défaite 20-17 dans un match frustrant. Le RCO qui perd régulièrement à l'extérieur, jamais de largement, à chaque fois ils perdent 2-3 points. Ils ont du mal à faire basculer les matchs en leur faveur, malheureusement. Et ensuite ils se sont imposés à la Source, c'était pas ce week-end mais celui d'avant, 38-7 contre les Basques de Mauléon. Et donc ils sont toujours à la deuxième place au classement, juste derrière Salles, dans une poule qui est très relevée, très homogène aussi, et avec donc une très grosse lutte pour cette première place qui permet donc de recevoir sur les phases finales. On rappelle que le RCO a pour ambition évidemment de monter en National 1, et donc ça risque de se jouer avec Salles, même s'il y a toujours Langon juste derrière, chez qui le RCO va se déplacer bientôt. Donc voilà, le RCO qui continue de faire une bonne saison, toujours un peu de frustration avec les déplacements où ils perdent très peu de points à chaque fois, où ça pourrait basculer en leur faveur, mais bon, la saison est positive, il faut maintenant bien la finir et ça commencera dès dimanche.
De toute façon, on l'avait annoncé et puis on va pas refaire la même rengaine qu'à chaque fois qu'on est sur cette antenne. Les déplacements à ce niveau-là au rugby et encore plus dans une poule comme celle-ci sont extrêmement compliqués. On le sait évidemment que se déplacer, que ce soit à Salles, à Langon, à Tyros, on pense même au plus bas, hein, à Mauléon, à Grolet, c'est évidemment très compliqué. Les matchs que le RCO perd de 1, 2, 3, en dessous de 6, 7 points, ils sont normaux en fait. Hein, se déplacer, on le voit, hein, Mauléon qui est 10e de la poule à 31 points, ça fait quand même 5 victoires, ça fait seulement 4 de moins que le RCO qui est 2e. C'est dire à quel point cette poule est relevée. Ce qui est sûr de toute façon, c'est qu'il faut quand même essayer de grappiller un maximum de points et pourquoi pas des bonus défensifs. Se contenter de bonus défensifs quand tu vas à Mauléon, quand tu vas à Nantes, c'est pas forcément un mauvais résultat parce que c'est des matchs qui sont extrêmement compliqués, parce que c'est des équipes qui se tiennent avec des joueurs qui sont à des niveaux relativement similaires. Donc même s'il y a eu la victoire à l'extérieur à Saint-Denis, qui était évidemment un match très compliqué, Saint-Denis qui est un promu mais on le sait, qui est une équipe qui est très rugueuse, C'est important d'aller chercher ces bonus défensifs, c'est important d'aller chercher ces quelques points, parce que c'est aussi ces matchs-là qui vont compter à la fin de la saison, ces petits points-là, et puis ça peut compter aussi au goal average, évidemment.
Ouais, bah le RCO a perdu à l'extérieur, mais a toujours pris un point de bonus défensif, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais perdu de plus de 6 ou 7 points à l'extérieur, ce qui montre quand même qu'Orléans est toujours dans le match à l'extérieur, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit problème-là de finir positivement les déplacements, mais on sait qu'ils sont toujours très très attendus à chaque déplacement. C'est la grosse équipe, tout le monde veut battre Orléans quand Orléans se déplace, mais bon, au moins ça va leur permettre de bien se préparer pour les phases finales. Il reste quelques matchs encore, mais ça promet en tout cas.
Parce que pour finir sur ces bonus défensifs, Orléans cette année c'est 9 victoires, 5 défaites, mais 5 défaites avec le bonus comme tu le disais Guillaume, alors que Sal qui a 2 victoires de plus a aucun point de bonus défensif, ce qui fait qu'en fait malgré deux matchs, deux défaites de différence, il n'y a que 3 points qui séparent les deux équipes. Donc ça peut compter, ça peut peser très très lourd dans la balance d'être accrocheur à l'extérieur et puis d'être très fort à domicile, puisque le RCO a quand même 4 points de bonus offensif sur ses 9 victoires. C'est quand même des statistiques qui sont quand même relativement impressionnantes pour les rugbyman orléanais.
Et on va finir par les Comètes qui se sont imposés 3-7-2 à Monaco. C'était en déplacement à Monaco. Monaco qui était donc deuxième de la poule, et donc c'est une victoire qui est très très importante. On sait que les volleyeuses des Comètes survolent un peu la poule, et restaient à battre quand même Monaco, qui était la deuxième grosse équipe, mais en tout cas les Comètes font une très très belle saison cette année. On sait qu'elles étaient redescendues l'année dernière, et là elles sont bien reparties pour remonter.
Ouais, marche en tout le monde, hein. Il n'y a pas à dire. Là, la dernière fois qu'elles ont joué à domicile, elles ont gagné un match 3-7-0, c'est de la troisième division quand même, elle gagne 3-7-0 sur un match qui dure 1 h 02 min, c'est rien du tout, hein. sans compter les temps morts et sans compter les pauses entre les sets, en fait ça fait quasiment du 15-20 minutes par set, avec des scores de 25-15 à chaque fois. Elles sont au-dessus, c'est évident, elles vont monter, c'est en poule haute d'élite, donc en deuxième division poule haute, alors qu'aujourd'hui elles sont en poule basse. À voir ce que ça va donner, on en reparlera tout à l'heure dans la programmation, mais elles vont jouer prochainement contre Sens, qui est une équipe de poule haute, et on va pouvoir voir quel niveau elles ont réellement cette saison, avec une confrontation contre une équipe qui est dans la poule au-dessus, mais surtout qui est une équipe qui est censée être à leur niveau, parce qu'aujourd'hui, gagner 3-2 à Monaco, elles sont sur une seule défaite cette saison, et puis depuis, elles gagnent 3-0 quasiment tout le temps, ou alors elles gagnent 3-2 à Monaco, elles sont au-dessus, il n'y a rien à dire, et il n'y a pas grand-chose à faire de plus cette saison, si ce n'est gagner, confirmer, pour préparer la saison prochaine.
On a fait le tour ?
On a fait le tour, on est bien.
Merci beaucoup. En une demi-heure, on a été très rapide.
Normalement, évidemment, je crois que c'est notre meilleur temps qu'on a fait. On n'a jamais été aussi long, mais évidemment, on avait plein de choses à vous dire.
Il y avait beaucoup de choses
depuis
à dire.
Depuis le retour 2026, on va s'écouter une petite musique. Ça sera Girl de Shiva. Et juste après ça, vous aurez le droit à notre débat du soir. J'annonce le débat du soir tout de suite.
Allez, vas-y.
Le sport amateur est-il plus intéressant à suivre que le sport professionnel ? Vous avez 3 minutes pour y réfléchir. En attendant, c'est Girl de Shiva sur Radio Campus Orléans. Vous êtes bien sur Radio Campus Orléans, votre émission Champion des ondes jusqu'à 22h. On s'est laissé évidemment sur le récap de l'actu depuis ce début d'année 2026. On va enchaîner maintenant sur un débat. Les gars, qui veut rappeler le débat ? On a à peu près, on va avoir une vingtaine de minutes pour parler des sports amateurs et des sports professionnels. Notre question, c'est: le sport amateur est-il plus intéressant à suivre que le sport professionnel ? Je ne sais pas, Pierre, sachant que c'est toi qui as eu l'idée évidemment de cette question, je ne sais pas si tu parles du match potentiellement lui-même ou de la troisième mi-temps. À toi de démarrer.
Il est bon. Non, je voulais revenir sur une expérience que j'ai eue avec un sport à Orléans qui m'a fait me poser cette question, puisque j'ai été il y a de ça 2 semaines voir le derby du Loiret qui opposait le SMOC de Saint-Jean-de-Bray au volley contre Fleury, deux équipes qui étaient mal placées en 5e division de volley. Je suis amateur de volley, je suis notamment commentateur pour une équipe professionnelle de volley, le Séchard de volley qui est une équipe qui joue juste au-dessus en 4e division mais qui a le statut professionnel. Et donc je me posais la question de savoir lequel des deux matchs serait le plus intéressant. Dans une halle, pour faire la comparaison au SMOC de Saint-Jean-de-Bray qui a dû accueillir une centaine de personnes contre une salle à Chartres qui peut avoir une capacité jusqu'à 1200 personnes. Donc je vous rassure, le club de Chartres ne remplit pas 1200 personnes tous les dimanches, mais
un peu moins, je crois que c'est 972,
un truc comme ça. Non, du coup je me demandais qu'est-ce que ça pouvait avoir comme différence et qu'est-ce que ça valait. J'ai été bluffé par le spectacle que le derby loiretain m'a offert, le spectacle. Mais quand je vous dis que j'ai vibré, c'est que je ne commentais pas, je me levais de mon siège et j'étais fou devant ce match où il y avait une centaine de personnes. Il y avait une ambiance terrible, la salle est beaucoup plus petite que celle de Chartres donc ça résonne, et le plus gros du bruit venait des supporters évidemment, mais j'avais juste à côté de moi les remplaçants. Ça c'est un truc qui est très fréquent au volley, les remplaçants dans des divisions inférieures font énormément de bruit pour encourager leur équipe. J'ai vibré, le match finit au tie break à 15-13 à la fin du match, j'étais fou, le scénario s'est retourné 10 fois. Et donc je me suis posé la question de savoir si je préférais pas, moi finalement, en tant que spectateur, en tant que journaliste, assister à des matchs comme ça, des matchs qui sont des matchs amateurs où ouais, le niveau est peut-être un peu moins bon. On peut le dire quand même tout de suite, ça c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Le niveau est évidemment inférieur, mais il y a autre chose que le niveau, il y a cette ferveur, il y a cette envie, il y a cette ambiance, il y a la troisième mi-temps, Malo, puisque tu me tends la perche. Et du coup je me posais la question de savoir ce que je préférais, parce qu'honnêtement, moi, ce match du SMOC qui est avant-dernier de sa poule contre Fleury qui est genre 9e sur 12, dans un match qui était sur le papier un peu pourri, il m'a fait vibrer, il m'a fait reprendre goût en le sport amateur, parce que c'est vrai que il y a des fois où on s'ennuie un petit peu.
Il y a des matchs qui sont moins intéressants. Je pense que déjà t'es tombé sur un excellent match. Ouais. Déjà, première question, la SMOC ou Fleury a gagné, qui des deux ?
C'est Fleury qui est venu gagner à Saint-Jean-de-Bray dans une ambiance électrique. Les joueurs ne s'insultaient pas évidemment, il y avait quand même une bonne ambiance, mais il y avait une tension, il y avait des réponses, il y avait de la provocation. C'était fou, franchement c'était fou. Et j'invite quiconque qui m'écoute, qui n'a jamais été voir un match de volley, assister à un match de volley, que ce soit à la télé ou même à directement se rendre dans les halles. La plupart des salles sont gratuites, je veux dire, même pour Tours par exemple qui est en première division, qui est premier de la première division, les places sont genre à 5-10 euros, alors que c'est du spectacle de fou. Ça c'est ma petite aparté sur le volley, mais globalement ouais, ambiance, spectacle de fou, et je pense que toutes les personnes présentes dans la salle ont vibré du début à la fin. Et donc je voulais vous poser la question, vous les gars, ce que vous préférez entre, que ce soit aller voir un match au stade ou à la télé, un match professionnel ou une bonne ambiance d'un match tendu au village du coin, proche de chez soi, dans la halle du coin pour le volley, pour le hand, le basket, ou à choisir entre demain aller voir justement un match de l'OLB où il y a de l'ambiance mais où il y a une distance, ou alors justement ce match du SMOC de Saint-Jean-de-Bray qui va affronter un de ses voisins de Fleury pour un derby électrique. Guillaume, peut-être toi qui, par rapport au rugby, qui connais le RCO, qui connais la source aussi, qui sont deux mondes complètement différents, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je préférerais quand même le sport professionnel, je pense. Parce que...
Merci beaucoup.
ça fait 10 minutes qu'il tirade en disant que...
Non, mais c'est vrai que je suis d'accord, quand on a une attache avec un club amateur, etc., c'est toujours sympa. d'aller supporter l'équipe, etc. Parce que bref, voilà, c'est familial. On sait qu'on a, voilà, on est attaché à ce club, etc. Mais c'est vrai que le sport professionnel, t'as quand même rien que le niveau, par exemple, tu sais que tu vas quand même.
Il y a certains matchs de l'USO, je peux t'assurer que le niveau rentre pas en jeu.
Ouais, mais tu vois, si je te propose ce week-end d'aller voir l'USO en national ou un match de régional 1.
Alors, je me permettrais de dire que je ne compte pas le foot dans tout ça, parce que le foot amateur, je ne supporte pas. Voilà, je le dis. Malo, on en parlera.
Je laisse Guillaume terminer et j'en parlera après.
Mais c'est pareil. Est-ce qu'on considère à quel point, à quel moment on compte une équipe comme pro, par exemple dans la gloire orléanaise? Est-ce que tu considères le RCO comme pro? Est-ce que tu considères
Ouais, je pense que c'est à partir du moment où les joueurs arrivent à vivre en majorité de leur sport, je pars du principe que c'est pro. Par exemple, l'US Orléans n'est pas reconnu comme une équipe professionnelle dans le football. Jimmy Giraudon, il touche 7000 euros par mois, quoi.
Ouais, c'est pareil au RCO, mais c'est vrai qu'au RCO, c'est quand même, ils ont la particularité
un peu plus, d'ailleurs,
d'avoir un peu plus. Beaucoup de contrats pro, mais à leur niveau, il y a quand même beaucoup de joueurs qui travaillent à côté. Qui travaillent et qui s'entraînent, qui jouent au rugby à côté. Mais moi, enfin, je préférerais quand même aller voir par exemple un match au RCO où il y a un niveau quand même qui est quand même très élevé, plutôt qu'un match de Régional 1 par exemple, même si ça peut être très sympa aussi, parce que des fois c'est vrai qu'au niveau professionnel on a moins cette ambiance de, par exemple, de derby. De derby entre deux équipes rivales qu'on peut avoir au niveau régional. Il faut faire le choix entre soit l'ambiance très très familiale et voir un match où il y a de l'engagement, etc. Ou alors aller voir un match de plus haut niveau, donc au niveau professionnel, où il faut payer aussi, parce que c'est quand même, ça rentre en jeu quand même, entre aller voir un match amateur qui est la plupart du temps gratuit ou payer une dizaine d'euros pour aller voir un match professionnel. Mais voilà, il faut voir ce qu'on préfère entre un match où on a une attache vraiment pour le club, si on est attaché à un club régional, ou un match professionnel où on y va vraiment souvent pour voir le niveau avec des joueurs qui ont pu évoluer à des niveaux plus élevés, quoi.
Malo, toi qui
je pense qu'il y a deux choses qui rentrent en jeu. Le premier, c'est l'attachement au club auquel tu vas voir. C'est-à-dire que moi, si je vais voir le match de foot, de hand ou quoi que ce soit de ma commune, entre guillemets, je serai forcément attaché parce que soit c'est des gens que je connais, soit c'est une équipe en général que je connais avec des gens qui sont à l'intérieur que je connais, etc. Donc je pense que ça rentre en jeu. Et le deuxième, c'est le match en lui-même. Je pense qu'au-delà de dire match professionnel ou match amateur, ce qui compte, c'est voir un beau match. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire je préfère voir un match amateur, mais un très bon match, comme tu as pu le voir à Fleury, entre Fleury et La Smoke, qui d'autant plus sont deux villes qui sont très proches géographiquement parlant, qu'un match de, je sais pas, de ce que tu veux, du volley, même de première ou deuxième division, où en fait, il y a une classe d'écart. Tout à l'heure, on parlait des comètes ensemble. Quand il y a 10 points d'écart sur chaque set, même si c'est une équipe qui est professionnelle, le match en lui-même, je préfère aller voir un match amateur. Après, je pense qu'il faudrait se poser la question sur deux matchs équivalents, dans le sens où deux matchs où c'est un petit peu serré, où c'est un petit peu tendu. Qu'est-ce qu'on préfère entre l'ambiance professionnelle et l'ambiance plus chaleureuse, etc. Je sais pas, je pense que les deux ont des arguments, mais je pense que l'argument principal est la proximité avec ce club et l'amour qu'on lui porte. C'est-à-dire que toi en plus, le match était tellement exceptionnel que je pense que t'avais même pas besoin d'avoir de l'amour entre guillemets pour une des deux équipes. Mais entre deux matchs serrés, entre l'US Orléans, par exemple, je vais prendre l'exemple du football, sur lesquels on peut aller voir quelques semaines de temps en temps, et le match de ton coin où tu connais, je sais pas, dans l'équipe, t'as la moitié de tes potes, je pense que tu choisis le match où tu connais la moitié de tes potes parce que t'y es plus attaché. Donc je pense que c'est deux choses qui rentrent en compte, et pour en revenir à ce que tu me parlais tout à l'heure sur l'ambiance amateur dans le football, si on part du postulat qu'un match est moyen dans le foot, imaginons, il y a un pauvre 1-1, parce que la dernière fois, j'étais allé voir un match des jeunes de l'USO, L'USO prend un but sur un corner un peu nul à la 90e. Il a fait froid tout le match, il n'a pas eu une occasion. Je peux t'assurer que je préfère potentiellement être au stade de la source à ce moment-là, même s'il y a autant d'actions, même si j'aimerais bien que le résultat final soit différent. Mais l'autre souci qu'on a au foot, c'est que souvent, il y a un petit peu de bagarre, il y a un peu d'échauffourée, etc. Et ça, évidemment, le sport amateur est horrible pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que ça. Je ne sais pas si les gens arrivent à s'en rendre compte, mais je pense que les supporters, entre guillemets, qui font ça au foot, c'est qu'ils ne regardent que du foot, je pense, dans leur vie. Ce n'est pas possible autrement. mais voilà, je pense que ce qui compte, c'est vraiment la proximité qu'on a avec ces équipes ou ce sport en général et les gens qu'on connaît à l'intérieur et le scénario du match. C'est-à-dire que je pense que je préfère même voir un match de deuxième division roumain où il y a 8 buts dans le match, où ça se joue pour sa vie, ou voilà quoi. Si je peux revenir au match de Ligue des Champions de Benfica et de l'OM.
Non, tu n'y reviens pas, c'est pas possible.
Du Real Madrid, c'est vrai que même si tu es attaché à aucune des deux équipes, le scénario est tel que tu passes forcément un match de dingue. Et à contrario, même si ton équipe de ton coin, elle a un match normal, entre guillemets, il ne sera jamais autant exceptionnel que ce match-là. Donc je pense que ce qui compte avant tout, c'est vraiment le match en lui-même et non l'aspect amateur et professionnel. La grande différence, c'est que je pense que le sport professionnel te donne plus l'occasion d'assister à un grand match.
Ah, c'est probable, mais...
Et donc, d'où le fait de choisir potentiellement des sports professionnels, enfin des équipes professionnelles.
Je voulais revenir sur ce que disait Guillaume, l'argument du prix, par exemple, puisqu'il y a, je pense, dans certains clubs, alors c'est surtout des clubs d'entre-deux, entre le monde professionnel et le monde amateur, chose qu'on a quand même beaucoup à Orléans, il y a une... je pense un problème dans les prix, en fait un décalage entre le prix qu'on paye et les attentes. Je pense au RCO aujourd'hui qui pratique des prix qui sont pas forcément déraisonnés, mais
c'est
qui...
combien d'aller voir le RCO aujourd'hui?
Plein tarif, c'est 12 euros si je ne m'abuse.
Ouais, 12-15 euros.
Hors produit, hors réduction étudiante, hors réduction licenciée, jeune.
C'est plus cher que d'aller voir le cinéma, quoi.
C'est moins. Alors. Exemple du cinéma, par exemple, que oui. Maintenant, demain, moi qui suis Orléanais, qui veux aller voir un match de top 14 de rugby, je veux aller à Paris un week-end. Le prix du billet pour aller voir le Stade français, ça va être, les premiers prix vont être à 15 euros. Alors,
il y a une différence, oui.
Il y a une différence de 3 euros pour aller voir un match du RCO qui est en 4e division. Dans des infrastructures qu'on connaît, on va pas faire un procès au stade Marcel Garcin, contre aller voir un match du Stade français. Alors, on va pas revenir sur le niveau du Stade français au rugby, mais voilà. Alors,
meilleur que RCO.
De toute façon, meilleur que le RCO. Et même, tu vois, si on pense au fait que oui, il faut payer le trajet, etc., en tant qu'étudiant, ça va être 6 euros pour aller voir un match du RCO. Pour aller voir un match de Paris, il y a des réductions aussi, ça va être 10 balles. Pour le transport, il y a des réductions aussi. Le trajet entre Paris et Orléans est gratuit. Est-ce que le problème du prix peut être, alors là c'est plus un procès pour le sport semi-professionnel dans cette espèce d'entre-deux, est-ce qu'il n'y a pas un problème entre le prix qui est pratiqué et le spectacle qu'on peut attendre derrière? Est-ce que c'est un problème avec le prix du sport professionnel ou alors c'est le sport semi-pro, même si évidemment de toute façon il faut les financer ces clubs? J'ai pas forcément de réponse à cette question, mais c'est un problème qui peut se poser.
Sincèrement, je pense que le souci du sport semi-professionnel, à toute mesure gardée, c'est dommage dans le sens où un club va avoir les mêmes charges qu'un club professionnel sans les mêmes revenus. Donc forcément, les prix des places, les charges sont moins grandes, donc on peut quand même tirer les prix vers le bas. Mais je pense que le RCO ne peut pas faire autrement.
Non, c'est sûr, ils bectent pas. Enfin, je veux dire, ils font pas un profit de dingue, je pense, sur les places.
Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Je pense pas.
Non, tout à fait.
Mais c'est vrai qu'il y a il y a une question de ce qu'on va attendre, et c'est le principe du sport. Tu peux tout avoir dans un match, c'est-à-dire que tu peux avoir un écart de 40 points, comme ça peut se jouer sur la dernière pénalité ou le dernier drop. Donc je pense que ce qui compte, c'est vraiment le match en lui-même, quoi.
Tout à
fait.
Mais c'était une question qui était intéressante à se poser, parce que il faut rappeler quand même que le sport amateur. Et ce qui fait vivre le sport professionnel après, je veux dire, les clubs amateurs, s'il n'y a pas de club amateur, il n'y aura pas de club professionnel derrière. C'est un écosystème qui est lié, enfin, c'est des mondes qui sont liés entre eux et qui ont besoin l'un de l'autre pour exister. Donc, je voulais aussi rappeler, par le biais de ce débat, que c'était important de soutenir le sport amateur, et ça passe justement par aller voir un match de temps en temps. Moi, je l'ai fait. Alors, c'était pour le travail, mais je l'ai fait. C'est important de pouvoir soutenir ces clubs-là, parce que sans ces clubs-là, il n'y a pas de sport professionnel aujourd'hui, ni au niveau semi-professionnel d'Orléans, ni au niveau au-dessus, comme on peut parler des villes de Paris, par exemple. Voilà. C'est important, je pense, de refaire cette petite piqûre de rappel, puisqu'on parle, nous, beaucoup des sports professionnels, parce qu'on ne peut pas revenir sur tous les clubs amateurs, on ne peut pas revenir sur tous les résultats. Mais c'est important, parfois, de leur refaire un petit big up, rappeler qu'ils sont importants et qu'ils sont tout aussi précieux que les gros clubs de l'agglomération orléanaise.
Donc on répond quoi à cette question finale? Ça dépend du match et de l'enjeu et de la proximité qu'on peut avoir avec ces équipes.
De la tâche, ouais.
Ouais, et puis on répondra qu'il faut aller voir le SMOC parce qu'ils ont besoin de soutien. La SMOC de voler, bah, particulièrement en l'occurrence, parce qu'ils ont besoin de soutien et parce qu'ils m'ont fait vibrer. Voilà.
C'était un super match au final.
Exactement.
Peut-être quitte à choisir un match un peu aléatoire. Oh, ça pourrait être pas mal ça comme
voilà. Idée de reporter. Tu vois, regarde.
On va voir un match un peu aléatoire, on sait pas trop quel sport, on connaît pas. Mais tu vois, c'est pareil, si tu tombes sur le match de la SMOC, c'est exceptionnel et tu passes la meilleure après-midi de ta vie. Mais si tu loupes le match de la SMOC parce que au pif t'as choisi un match un peu nul de rugby ou un match un peu nul de football, bon bah ton après-midi est foiré et je sais pas si tu recommences la semaine suivante.
Et bah,
c'est la chance.
Pour la prochaine fois, on ira voir un match de D4 et on va vibrer et on va s'amuser et on fera un débrief.
Et après ces petites questions qu'on s'est posées, est-ce qu'on passerait pas au jeu? Il est 21h53.
Un petit coup
juste
sur la
après ces tentaculations.
Je fais un petit coup sur la programmation et puis on a le temps de se faire un petit jeu.
Sur la programmation, et après on se fait le jeu.
On a déjà de toute façon un petit peu parlé de ce qui se passe dans les prochaines semaines du côté des clubs orléanais. Je commence par l'USO, dont on va pas revenir sur les formes du moment, mais qui reçoit à domicile le 6 février Châteauroux pour un derby. Ça va être intéressant de voir comment les Orléanais vont pouvoir. Appréhender ce match. Et puis il y a un déplacement au Puy le week-end d'après, match important à l'extérieur. Pour l'OLB, qu'on a dit dans une situation compliquée, ils vont recevoir Nantes le 7 février à Comet et ils se déplacent à Caen, puis contre Antibes à domicile, mois de février relativement calme, hein. 3 matchs dans tout le mois, ça va être relativement tranquille, mais ça va être important de partir, de conclure ce mois de février de la meilleure des manières, parce qu'il faut, qu'on l'a dit, que l'OLB reparte sur une phase positive, ça va être très important. Concernant les Septors, ils reprennent donc leur saison régulière par un déplacement à Créteil, mais surtout il y a la réception du PSG en Coupe de France, en quart de finale de la Coupe de France. Les Septors, c'est la dernière équipe de deuxième division à être encore présente en Coupe de France. Ils ont éliminé deux premières divs. C'était une équipe parisienne au tout début. Malo, on y était ensemble.
Sainte.
Ils ont sorti deux équipes de première div en Coupe de France et on espère pourquoi pas un exploit
contre le Paris Saint-Germain.
Bah,
ils ont battu Limoges.
Ouais.
Le tout premier match, on y était
Chartres.
Ensemble. Non, attention avec Chartres.
Non. Corbeil.
C'est pas Chartres.
Ils ont battu, je
Tremblay.
Sais plus. Tremblay. Ils ont battu Tremblay.
Tremblay, voilà, ça fait une première bonne réponse pour le quiz suivant.
Et donc il y a
Tremblay au tir au but.
Exactement.
Et Limoges de.
Un match de dingue à 40 points, exactement. Ouais. Donc il y a le PSG, c'est ce qu'on voulait, un gros pour la Halle.
On aurait bien aimé Nantes, mais Paris, on prend, sachant que Paris va repartir sans victoire. Donc.
Et on n'oublie évidemment pas le Comet le 13 face à Frontignan. On y sera pour pouvoir assister au showcase. Évidemment, Malo n'y va pas pour le sport. Malo, il va exclusivement pour le showcase de Claudio Capeo après, parce qu'il est en train de réviser ses classiques. Et donc, ce sera Claudio Capeo, cette fois le 13 février à Comet.
Ils enchaînent 10 et 13 du coup
Ils enchaînent 10 et 13, ouais, c'est la Coupe de France. Malheureusement, c'est obligatoire.
C'est pas mal, ça va mettre un petit du rythme.
Ouais, parce que là, ils sont reposés. Ils vont avoir un mois de février qui est beaucoup plus costaud que celui de l'OLB. Pour le RCO, donc on le disait, déplacement à Langon, gros déplacement qui est troisième Langon, et il y a la réception de Tyros le 14.
Qui est quatrième aussi.
Donc là, ouais, là le RCO est sur deux gros matchs là à venir, et ça va être important d'aller chercher des points à Langon, pourquoi pas un bonus, et Tyros, il va falloir gagner. C'est victoire obligatoire à domicile de toute façon. Et pour les Comets, le volet féminin, il y a un match de Coupe de France. C'est seulement le deuxième tour de Coupe de France de volet féminine. Et ça se jouera le 7 à l'Argonautes. Donc Sens qui est dans la poule haute d'élite, donc la deuxième division. Ça va être important, intéressant de voir ce qu'a cette équipe orléanaise dans le ventre, parce que gagner contre les petits de la poule basse d'élite, c'est bien. Aller chercher des résultats à Monaco, c'est encore mieux. Mais très sincèrement, ce serait bien de les voir gagner contre Sens. Ça enverrait un très gros message, parce qu'on sait qu'elles seront en poule haute l'année prochaine. Et donc ça va être très intéressant de les voir contre une vraie confrontation à leur niveau. Et puis après, il y a la réception du Pôle France en championnat le 14, qui semble être une formalité. De toute façon, là, il semblerait que les Comètes vivent une saison une fin de saison relativement tranquille. On enchaîne sur le jeu.
On a littéralement 3 minutes.
Et bah, de toute façon, j'ai besoin de 45 secondes chacun. Le jeu est très simple.
C'est chronomètre ou on chronomètre ?
Je vais chronométrer parce que vous êtes des tricheurs, je vous connais. Jeu très simple, c'est un quiz express.
Attends, je me concentre là.
Qui est-ce qui veut commencer ? Vous avez 30 secondes.
Non, mais sinon, on dit tous les deux, genre.
Le premier qui répond a gagné ?
Vas-y.
Allez, vous êtes prêts ? Je vous laisse.
Attends, parce qu'on a combien de temps ? Oui, si on va faire ça, parce qu'il nous reste 2 minutes là.
Je vous laisse un tout petit peu de temps de préparation. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Allez, top. Quel joueur a remporté le Ballon d'Or en 1985 en jouant 95 en jouant à l'Ajax ?
J'ai vu la réponse, donc je triche pas.
Allez, Jean Jouet, merci Guillaume. qui est le dernier Français vainqueur de Roland Garros en simple ?
Yannick Noah,
merci.
Le seul.
Un point pour Malo. Quel club a remporté la Ligue des Champions sans perdre un match en 2004 ?
Porto.
Porto, un partout. Quel athlète a gagné 8 médailles d'or au JO de Pékin en 2008 ?
Michael Phelps.
2 pour Guillaume. Quel stade a accueilli la finale de la FA Cup en 2007 ?
Bah, Wembley.
Oh là là, ça fait 2 partout.
Pourquoi tu précises 2007, c'est tous les ans.
C'est...
J'ai eu peur du coup.
Quelle équipe a remporté le Grand Chelem du tournoi destination en 2010 ?
La France.
Ouais, 3-2.
Wow.
Oh, t'arrêtes un peu toi là-bas.
Pas.
Quel pays a remporté l'Euro 1992 contre toute attente ?
La Grèce.
La Grèce.
Non, c'était le Danemark.
Ah oui,
qui est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA ?
Le meilleur marqueur ?
LeBron James.
Ouais, 3 partout. Quel pays a remporté la Coupe Davis en 1991 face aux États-Unis ?
Bah, la France.
Ouais, 4-3 pour Malo.
Let's go !
Quel pays a remporté le plus de médailles aux JO d'hiver ?
Wow,
le Canada ?
La France ?
Les États-Unis ?
Non, c'est la Norvège. Quel club anglais ?
C'est quel biathlon ?
Quel club anglais est resté invaincu en première ligue pendant la saison 2003-2004 Arsenal, ça fait 4 partout.
4-4 là ?
Ça fait 4 partout. On va poser une dernière question.
La dernière, il nous reste 1 minute 10.
Question que je vous ai posée tout à l'heure en avant-émission.
Léviachine.
Quel pays a remporté la Coupe du Monde de cricket en 2019
C'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Donc on est bien d'accord, c'est pas l'Inde et pas les États-Unis.
Ce n'est ni l'Inde, ni les États-Unis, ni l'Australie.
Ni l'Australie.
La Nouvelle-Zélande.
Non.
La Chine ?
Non plus.
Attends, mais un sport. C'est un temps, mais donne d'autres exemples, un truc.
Bon, je vais poser une autre question, c'était l'Angleterre. Allez, une dernière question simple. Quel athlète détient le record du monde du décathlon ?
Kevin Mayer.
Kevin Mayer. C'est Guillaume qui remporte ce quiz express. Félicitations à vous deux, vous êtes vraiment trop fort. Félicitations, bravo.
Merci à vous deux déjà pour cette émission. On se retrouve quand, nous ? Dans 2 semaines, il me semble.
Dans 2 semaines, exactement.
Dans 2 semaines, et donc on va laisser la place tout de suite à Chris Tentaculation. Juste avant ça, on va se mettre une dernière musique. Merci de nous avoir écoutés. À dans 2 semaines. C'était Champion des Ondes sur Radio Campus Orléans, tout de suite, 13 de Pâques.
Ciao, à la prochaine.